Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Régent Thomas, cofondateur de la clinique actuelle dont il est président. Et il est également fondateur et président d'honneur de Médecins du Monde Canada. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Science pour tous, qui regroupe près de 250 organismes et dont la mission est de faire reconnaître et de promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société. Impliqué depuis toujours en recherche, en enseignement et en prévention, le docteur Régent Thomas nous propose ce soir une rencontre sur l'action humanitaire, principalement en lien avec la lutte contre le sida. Avant de céder la parole à M. Thomas, j'aimerais également vous rappeler que ce jeudi, nous aurons une conférence en présence de Denis Vaugeois concernant la mesure d'un continent en lien avec l'exposition que nous venons d'inaugurer hier soir. Ils ont cartographié l'Amérique. Et nous avons également une nuit blanche ce samedi à la Grande Bibliothèque. Alors, je vous invite chaleureusement à y participer. Alors, je vous indique également qu'une période de questions suivra la communication de notre invité. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci.
Bonsoir tout le monde. Merci à Science pour tous et la Grande Bibliothèque de l'invitation. C'est rare qu'on a la chance de présenter avec le grand public. La plupart de nos présentations, nos conférences se font avec les médecins ou les malades même. Alors, c'est une occasion intéressante que j'essaie de vous livrer une réflexion sur mon expérience avec la lutte au sida à la clinique actuelle à Montréal, avec Médecins du Monde un peu, partout dans le monde. Et une réflexion aussi, en terminer un peu avec une réflexion sur l'action humanitaire, les défis actuellement. L'action humanitaire qui veut dire beaucoup de choses, mais une définition qui est très simple, qui me plaît beaucoup. Alors ça, c'est un tsunami quelque part, je pense que c'était en Haïti. Donc, qui consiste tout simplement à alléger la souffrance d'autrui, à venir en aide à des populations en danger. Donc, aussi simple que ça, ça veut dire dans le fond que dans la vie de tous les jours, on peut tous faire un peu de l'action humanitaire. Et que c'est une définition de Bernard Kouchner qui me plaît aussi beaucoup, qui consiste à agir localement auprès d'un homme sans prétendre régler l'ensemble du problème. Alors, c'est vraiment la définition qu'un organisme, par exemple, comme Médecins du Monde a, parce que quand on a des choix à faire, il y a des besoins, il y en a partout sur la planète. Comment on définit nos choix? C'est très difficile. Quel pays on va? Est-ce qu'on va au Darfour? Est-ce qu'on va en Haïti? Est-ce qu'on va... Alors, notre vision... Médecins du Monde ou d'autres organisations comme celle-là, on n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, on n'est pas les Nations unies, on n'a pas une vision nécessairement de santé publique. C'est vraiment que chaque vie compte et que chaque vie qu'on pourra sauver sera importante. Le sens de la communauté, des enfants comme ma nièce, qui ont la chance de vivre dans des familles très favorisés, évidemment, vont pouvoir se développer. Henri Lamoureux donne cette définition-là au sens de l'engagement, au sens de la communauté, qui me plaît beaucoup, que l'engagement contribue de façon significative à tisser la qualité de notre humanité et fonde la base de notre espoir en une société plus juste et plus en concordance avec l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et en fait, c'est ce qu'on ressent beaucoup dans une société qu'on dit beaucoup individualiste, beaucoup... Et en même temps, on ressent beaucoup que les gens ont des besoins. Les gens sont très impliqués dans les mouvements communautaires, sont très impliqués dans l'action humanitaire. Le nombre les jeunes sont très intéressés par tout ce qui est les relations internationales et ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très simple, c'est que seul l'être humain n'est rien ou peu de choses, et qu'ensemble, dans le fond, les êtres humains peuvent réaliser de bien grandes choses. Si on est heureux seul, dans notre maison, c'est pas tellement intéressant, mais si on est entouré d'amis, entouré d'une famille, on va évidemment être beaucoup plus productif. Et le sens du mot bonheur veut dire quelque chose de plus important. C'est ce qui aussi fait que dans notre travail, on va essayer. Bon, ce soir c'est une conférence sur la science la médecine, on dit que c'est de la science et de l'art. Alors, je dirais que notre travail, mon travail à l'actuel, à travers la lutte au sida, a permis de réaliser que, dans le fond, la science, et ça peut être aussi la médecine, un outil de transformation sociale. Donc, pas seulement de guérir, pas seulement de soigner. Pendant longtemps, le sida, on pouvait pas soigner, on pouvait pas traiter, les gens mouraient. Mais ça nous a quand même permis de développer des défis, de faire face à des défis extrêmement importants qui ont créé une solidarité extrêmement importante. Le travail des milieux communautaires dans la lutte au sida avant l'arrivée de la trithérapie, et même la trithérapie a un peu bouleversé ça parce que il y a peut-être même un désengagement actuellement à ce niveau-là. Alors, et même au niveau international, je me souviens, avant l'arrivée, la trithérapie existe depuis 96. Avant l'arrivée de la trithérapie, dans toutes les conférences internationales, tous les gens, tous les médecins, les professionnels de la santé assistaient aux mêmes conférences. Et quand la trithérapie est arrivée, les médecins des pays riches ont commencé à aller dans les conférences sur les traitements et les médecins des pays pauvres ont commencé à aller dans les conférences sur la prévention parce que eux n'avaient pas accès au traitement et ça les intéressait pas tellement, dans le fond, de connaître les effets secondaires ou la toxicité de ces médicaments-là. Alors, il y a eu un peu une désolidarisation au niveau international avec, malheureusement, l'arrivée de la trithérapie. Donc, essayer d'utiliser notre travail pour faire de l'éducation, de la promotion, de la prévention, surtout pour lutter, dans le fond, pour la dignité des malades. Ça a été beaucoup notre expérience de travail, les malades qui travaillent dans le sida. Et ça a été beaucoup une grande force et quelque chose qui a transformé notre vie, mais qui a eu aussi... je dirais une importance assez incroyable. Moi, j'ai fait de la médecine générale avant de faire du sida et j'étais pas très heureux en médecine générale. Et par destin, le sida est arrivé dans ma vie en 1982-3, le premier malade. Et jamais j'avais étudié le sida à l'université. Le sida n'existait pas quand j'ai terminé ma médecine. Et ça aurait fait tout un chemin de carrière, un mot que j'aime pas, mais plutôt un travail qui a donné un sens certainement à ma vie, un sens à la vie des gens qui travaillent avec moi. La santé aussi, d'essayer de réfléchir. On parle beaucoup de la santé hein, au Québec, c'est la première nouvelle tous les soirs au téléjournal, surtout pendant les campagnes électorales, mais c'est toujours la même nouvelle à peu près, c'est toujours comment ça va mal dans le système de santé. Si t'es étranger, tu arrives au Québec, t'as l'impression que t'allais se faire soigner, c'est comme pire que d'être dans le fond de l'Afrique du Sud. Alors, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur notre système de santé et qui est de comprendre que c'est pas seulement l'accessibilité à un médecin, c'est certainement quelque chose d'important, puis on sait qu'il en manque actuellement, mais c'est aussi tout comment on a été formé. On l'a dit tantôt, des enfants de milieux plus favorisés vont certainement avoir plus de ressources que des enfants qui sont issus de milieux défavorisés, parce que c'est notre faculté d'adaptation et notre foi en l'avenir qui ont été développées durant l'enfance, toute la question de l'estime de soi, du suicide, les problèmes de santé mentale qui sont certainement reliés avec toute cette difficulté ou ces problématiques reliées à l'estime de soi. C'est aussi le réseau de soutien. Quand on est entouré, quand on a une famille, quand on a des parents, quand on a des amis, si ça va mal, si on est malade. Et c'est la grande difficulté dans le sida, c'est une des grandes difficultés, c'est la grande solitude que vivent les malades. Je donne souvent des conférences, puis parfois à des étudiants, puis je leur dis, si votre professeur apprend ce soir qu'il a le cancer, toute l'école va être mobilisée, vont tous être entourés, vont envoyer des fleurs, peu importe le mouvement qu'il y aura, mais il y aura un mouvement de solidarité pour votre professeur qui est atteint du cancer. Si votre professeur est atteint du sida, il va être probablement seul à l'hôpital ou à la maison, en tout cas très isolé, beaucoup moins entouré à cause de toute la stigmatisation, qui en fait une maladie très, très particulière. Et beaucoup de nos malades vont nous dire que c'est qu'on est la seule personne souvent, le médecin, qu'on est la seule personne qu'on est au courant de leur état de santé. J'ai une vieille madame de 83 ans qui est séropositive, qui a été diagnostiquée 7 ans après que son mari soit décédé. Son mari était décédé du sida, elle ne le savait pas. Alors, imaginez-vous, à 75 ans, elle a commencé à venir à la clinique actuelle, au centre-ville, avec des homosexuels, des toxicomanes, toutes sortes de monde. Alors, le drame de cette femme-là, de se ramasser à 75-80 ans, qui pourrait être votre grand-mère, elle ressemble à une grand-mère, elle est... et qui ne prononce à peu près jamais le mot sida. Quand elle vient me voir, elle me dit « Est-ce que je vais bien, docteur? Est-ce que ma pression est bonne? » On a parlé du sida la première fois où elle est venue, puis après, on n'en a plus jamais reparlé. Alors, la solitude que vit cette femme qui est dans le Nord quelque part et qui vient à tous les 6 semaines à la clinique, c'est quelque chose qui fait la grosse différence avec d'autres maladies. Bon, je suis déjà émotif, ça va bien. Les possibilités inégales au niveau de la santé, on en a parlé, c'est certainement l'écart entre les riches et les pauvres. Il y a 10 ans de différence d'espérance de vie entre Westmount et Saint-Henri, à 1 kilomètre. Même pas. J'ai fait une campagne électorale un jour, en 1994, j'ai eu la chance de pas être élu. Non, peut-être pas la chance. Et j'étais à Saint-Henri, alors toutes ces conditions-là, j'étais candidat dans Saint-Henri-Sainte-Anne, et c'était quand même assez hallucinant, et cette différence-là ne s'est pas amenuisée depuis 1994, c'est la même chose. Il y a une femme sur 3000 à Westmount qui était infectée par le VIH, puis il y en a une sur 200 dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, les conditions de pauvreté associées à la toxicomanie, associées à la prostitution, associées à la violence, associées aux abus sexuels, font qu'on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Parfois, j'ai l'impression, évidemment, de radoter. Alors, j'ai donné cette conférence-là il n'y a pas longtemps, un combat d'anciens combattants, à dire, est-ce qu'on est encore est-ce qu'on est encore capable de lutter contre le sida? Le très difficile de mobiliser des gens actuellement dans la lutte contre le sida, difficile de trouver des fonds. Les organismes communautaires sont un peu épuisés. La trithérapie, évidemment, a eu des succès incroyables. Nos patients ne meurent plus, c'est une chance exceptionnelle. Tous nos patients qui mouraient avant, nos patients ne meurent plus, ou très rarement, on peut pas dire plus, mais très rarement, vont plutôt bien, malgré les effets secondaires. Ce qui fait qu'on en parle moins dans les médias, ce qui fait que politiquement, c'est moins important, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de travailler au niveau de la prévention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, selon Santé Canada, pour la Journée mondiale du sida, on a fait cette publicité-là, qu'une personne sur trois au Canada qui est infectée par le VIH, qui ne le sait pas. Alors, c'est quand même étonnant, dans un pays aussi riche que le nôtre, de savoir qu'une personne sur trois ne le sait pas et d'essayer de se comprendre pourquoi. Pourquoi les gens, on n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas en Haïti, l'accessibilité aux tests de dépistage sont là. Alors, c'est toute cette réflexion-là qui m'intéresse. Et en même temps, on est en pleine épidémie de maladies transmises sexuellement. Alors, la trithérapie est arrivée en 1996. La mortalité du sida a chuté de 98%, de 80 à 90%. Et en 1998, 2 ans plus tard, commençait l'épidémie des MTS, directement liée à la trithérapie. Alors, on a une augmentation de chlamydia chez les femmes de 15 à 19 ans de 250%. On a une épidémie de syphilis dans la communauté gay actuellement. On a 3 cas de syphilis au Québec en 1998, plus 1 cas par jour actuellement au Québec, principalement de la communauté gay. Alors, les comportements sexuels sécuritaires, la prévention qu'on avait réussi un peu à établir, très difficile actuellement d'être dans ce combat-là parce que les bénéfices de la trithérapie font qu'aussi les enfants ont moins d'éducation scolaire. Les jeunes qu'on voit aujourd'hui qui ont 18-19 ans nous disent il n'y a plus de cours dans les écoles de formation personnelle et sociale. Il y a ce qui était les meilleures profs, dans le fond. Quand les gens mouraient du sida, on en parlait dans les médias, il y avait des gens autour de nous. Alors, il y a des jeunes qu'on annonce qu'ils ont 18 ans, qui sont infectés par le VIH, 18-19 ans. Ils pensent que le sida, c'est soit une maladie africaine, parce que la plupart des reportages sur le sida qu'ils ont vus à la télévision dans les dernières années, c'est le sida en Afrique, ou soit une maladie de vieux homosexuels. C'est ça, on entend ça régulièrement à la journée. C'est la réalité vécue chez les jeunes actuellement. Alors, évidemment, vous voyez, notre nombre de cas continue d'augmenter de VIH de façon incroyable. Pourquoi une personne sur trois ne le sait pas? Ben, peut-être que les gens préfèrent ne pas le savoir, parce que la discrimination continue, parce que le VIH touche encore surtout des personnes marginalisées. Donc, une double marginalisation, une double stigmatisation. Déjà, d'être homosexuel ou toxicomane ou de venir d'Afrique du Sud ou d'Haïti ou peu importe, et en plus d'apprendre qu'on est VIH, peut-être qu'on préfère ne pas le savoir. Ce qui fait que les gens mettent leur vie en danger. Il y a des gens qui nous arrivent, qui sont infectés probablement depuis 10, 15, 20 ans, qui se doutaient parfois qu'ils pouvaient être VIH et qui, s'ils étaient venus un ou deux mois plus tard, ils seraient décédés. Alors, ils mettent leur vie en danger au lieu d'oser passer des tests. L'homophobie qui continue d'être importante. Ça, c'était dans une revue gay française. Double discrimination en Amérique du Nord, aux États-Unis. Actuellement, près de 80% des cas sont chez les Noirs afro-américains. Alors, double stigmatisation, encore plus difficile à rejoindre, faire de la prévention auprès de ces groupes-là. Ce qui fait qu'à l'actuel, on a décidé pour le 1er décembre, on a essayé d'être original avec peu de subventions gouvernementales, pas de subventions gouvernementales, de faire des cliniques de dépistage MTS, axées pour essayer d'encourager, dire nos malades, et on a ciblé, parce que c'est pas tout de faire une campagne qui encourage la prévention, encore faut-il qu'il y ait des médecins disponibles pour faire le test. Alors, on a fait des cliniques ciblées, particulièrement pour les populations qu'on considère à risque élevé, et qu'on pouvait avoir un rendez-vous à l'intérieur de la même semaine pour encourager le dépistage. Peter Piot, qui était directeur de l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, la lutte au sida, disait qu'il faut dépenser de l'argent là où le besoin l'exige tout particulièrement, parce qu'effectivement, on sait qu'on est dans des moyens de ressources limitées, on sait qu'on peut pas dépenser de façon générale un peu partout. On est toujours en coupure, on est toujours dans des périodes difficiles. Alors, il faut cibler. Alors, les cibles sont certainement les jeunes. Ça, c'est à la clinique actuelle en 2006 et 2007. 32% des gens qui ont eu un diagnostic de VIH, une nouvelle infection en 2007 à l'actuelle, étaient en bas de 30 ans. Et près de 15%, 12,5% est en bas de 25 ans. Alors, ça veut dire que c'est certainement le groupe à viser, ce sont certainement les jeunes. Et le deuxième groupe, c'était les homosexuels. Pour la Journée mondiale du SIDA, le gouvernement cette année a décidé de faire une campagne de prévention qui visait particulièrement le toxicomane. J'ai pas du tout contre le fait qu'on fasse de la prévention sur... évidemment, les médias ont aimé ça, là, cette controverse-là. Mais je disais, pourquoi on n'a rien fait non plus quand même pour les gays? Il y a quand même 60% des nouvelles infections actuellement au Québec. En 2007, 60% des nouvelles infections étaient chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça, c'est un terme général qui englobe les hommes qui se disent hétérosexuels, mais qui ont des relations avec d'autres hommes. Alors que chez les toxicomanes, il semble y avoir une baisse. En tout cas, c'est toujours fragile, puis il faut continuer de faire de la prévention. Mais c'est moins de 20% des cas, tandis que chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est près de 60% en 2007. Ça, c'est pour l'ensemble. Si on regarde maintenant, si on fait pas de la prévention, qu'est-ce qui nous attend? Parce que le budget de la prévention... Le budget total au Québec du ministère de la Santé, il est de 25 millions de dollars par an. Ça inclut les soins, la prévention. En prévention, il y a probablement 1 à 2 millions en MTS, en campagne ou plus ciblée. Si on regarde seulement le nombre de patients qui sont sous trithérapie actuellement, on est près de 100 millions. Alors, on a plus de gens qu'on paye pour lesquels on paye des médicaments par la trithérapie que tout le budget du ministère de la Santé en MTS, incluant soins, chlamydia, gonorrhée, syphilis, hépatite, etc. On a fait faire une évaluation actuaire disant que si ça continue, parce que les gens ne meurent pas, les gens qui commencent la trithérapie à 19, 20 ans, 22 ans, ils vont en prendre 30, 40 ans, là, à peu près à 25 000 $ par année. payé par le gouvernement, là, ça. C'est pas les gens qui payent, mais on finit tous par payer. On estime que dans 10 ans, on va être rendu à 400 millions de dollars et dans 25 ans, près de 2 milliards et demi seulement en médicaments de trithérapie. Le budget en santé publique, on dit qu'il faut faire un virage, c'est sûr que politiquement, c'est toujours difficile. Le budget total de la santé publique, qui inclut là, toutes les autres ressources au Québec, il est de 2 % seulement par rapport à l'ensemble du budget du ministère de la Santé. Alors, 2 % ça inclut les santé mentale, personnes âgées, MTS, VIH, etc. Alors, c'est clair que si on fait pas un virage prévention, un jour, ben on va payer parce qu'il y a des gens qui font des médicaments, qui les développent et qui, heureusement, sauvent la vie de nos malades. Ce qui m'a amené, évidemment, à travers tout ça, à Médecins du Monde. Alors, je l'ai dit tantôt, j'ai été candidat pour les élections en 1994, j'ai perdu mes élections et j'ai été nommé conseiller à l'action humanitaire pour le gouvernement du Québec pendant à peu près 15 mois, à peu près en même temps que M. Parizeau. M. Parizeau m'avait nommé, quand il est parti, je suis parti aussi. Mais ça m'a permis de connaître une organisation qui s'appelle Médecins du Monde, dont plusieurs sont ici ce soir, qui est une organisation qui fait un travail exceptionnel compte tenu de ses moyens, comme tous les milieux communautaires, toutes les difficultés, évidemment, de survivre, et dont le slogan, évidemment, me plaisait beaucoup, « Nous luttons contre toutes les maladies, même l'injustice ». Alors, ça vient rejoindre un petit peu le travail de l'actuel, et c'est arrivé ça en 96. C'est arrivé en même temps qu'arrivait la trithérapie, que je sentais cette désolidarisation internationale, et de dire, ben peut-être que je peux aller quelque part à l'international, faire un certain travail, tout en restant à la clinique, je suis toujours resté à la clinique, de formation, d'éducation, de faire du lobby aussi pour l'accès aux médicaments dans le VIH. Les types de missions, en quelques mots, de Médecins du Monde, plusieurs types, réhabilitation, urgence humanitaire, des crises sanitaires locales. Je vais vous parler de quelques projets pour après parler plus spécifiquement du sida dans le monde. Alors, il y a eu un projet en Afghanistan le 11 octobre 2001. Alors, vous vous rappelez du 11 septembre 2001. Tous les yeux étaient tournés vers New York. Et le 11 octobre 2001, Médecins du Monde, on a eu l'idée d'aller voir en Afghanistan ce qui se passait, de faire un projet. Je vais vous raconter une anecdote assez drôle parce que ça va vous expliquer nos besoins dans des organisations comme Médecins du Monde. On a besoin, la plupart des projets sont payés si on fait un projet, si on le développe, si on le dépose à l'ACDI ou au gouvernement du Québec. Pour ça encore, faut-il le faire, le projet. Alors, on avait pas de sous du tout pour faire un projet, mais on avait le goût, l'idéal de faire un projet dans cette région-là qu'on savait fortement dévastée depuis longtemps. Et on a décidé de faire appel à Céline Dion, à la fondation de Céline Dion. Alors, le matin, je connaissais l'attaché de presse de Céline Dion. Mes amis ont déjà entendu cette histoire-là, l'attaché de presse de Céline Dion, Francine Chaloux. Et j'appelle Francine, je dis, penses-tu que ça pourrait intéresser? Faut dire que René Angelil est d'origine syrienne. Donc, dans cette région-là, je me dis, ben, il peut y avoir peut-être un intérêt à nous supporter. Et le soir même, je reçois un appel de René Angelil. Et je pensais que c'était CKMF ou c'est quoi qui imitait René Angelil. « Oui, docteur Thomas, j'ai eu votre message. » Et on a reçu 25 000 $ qui nous a aidés à démarrer ce projet-là. Et après ça, Paul Piché et d'autres artistes ont fait un show au Spectrum aussi pour lever des fonds. Bien, avec ce petit montant-là, ça a permis à l'équipe de Médecins du Monde d'aller 3 ans dans les camps de réfugiés en Afghanistan où il n'y avait pas vu de médecin depuis des dizaines de milliers de personnes n'avaient pas vu de médecin depuis des dizaines d'années. Alors, un jour, je donnais une conférence, puis je parlais de ça dans une région du Québec, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, « Oui, mais on manque de médecins au Québec, pourquoi vous envoyez nos médecins à l'étranger? » Alors, je pense qu'il faut quand même faire une différence entre ce qu'on appelle la pauvreté, oui, il y a de la pauvreté à Montréal, versus la grande misère ou versus le vrai manque d'accessibilité, et de partager un petit peu notre richesse, ne détruira pas, je pense, notre richesse collective. Haïti, Médecins du Monde, est très, très présent en Haïti. Ça, c'est un projet pendant les urgences gonaïves. Alors, souvent, ce qu'on fait dans ce temps-là, comme on a une équipe, je parle encore, mais je suis plus président de Médecins du Monde, je suis membre volontaire. Quand on a une équipe en Haïti, s'il arrive une urgence, souvent dans ces endroits-là, il y a des catastrophes. Alors, on prépare notre équipe sur le terrain, dire « Préparez-vous pour l'urgence ». Et souvent, les besoins qui vont être, comme ce sont des pays qui sont déjà très, très pauvres, les malades sont déjà, dans le fond, les principaux problèmes sont des problèmes de santé chronique, malnutrition, déficience en vitamines, problèmes chez les enfants de malnutrition. Alors, arrive un petit accident, un petit ouragan. Un ouragan arriverait à Montréal, ou une grosse tempête, on a vécu la tempête du froid, mais on n'a pas eu de déstabilisation, évidemment, comme un pays pauvre. Ces gens-là sont déjà très atteints, peu d'infrastructures, et vont être encore plus touchés. Alors, on fait souvent des cliniques mobiles de santé, où nos professionnels de la santé vont aller donner des soins, souvent sur place idéalement, parce que quand arrivent des choses comme ça, il y a aussi les petits bandits qui sortent, et souvent les femmes sont violées, sont violentées, les enfants, etc., donc n'osent même pas se déplacer. Donc, en plus d'avoir l'ouragan, en plus, elles peuvent pas se présenter, et souvent, il n'y a pas de médecin ou de dispensaire. Alors, que ce soit Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, souvent, on va faire des dispensaires et des cliniques de santé mobile pour essayer de se rendre. On va aussi travailler auprès des populations marginalisées parce que c'est le genre de populations qui sont le plus difficile à rejoindre, les plus marginalisées dans leur propre pays. Alors, on a fait un projet au Vietnam avec les travailleuses du sexe. Alors, ce sont toutes de jeunes travailleuses du sexe. La prévalence du VIH est assez importante. La prévalence du VIH suit souvent la route de la toxicomanie, la plupart du temps, que ce soit à Moscou, que ce soit en Afghanistan ou au Vietnam, parce qu'elle est liée à la toxicomanie intraveineuse, et après ça, avec les travailleuses du sexe. Alors, on a fait une espèce de clinique mobile, genre Father Pop, là, qui travaillait avec les travailleuses du sexe, faire de la prévention, vacciner contre les hépatites, etc. C'était très difficile. Le Vietnam, c'est un pays communiste. C'était assez difficile de faire un projet comme ça, mais ça a fini par fonctionner. Pour arriver à des maladies comme la tuberculose, on va essayer de comprendre, on parle de la science. On dit que la tuberculose tue 2 millions de gens chaque année, 4 vies chaque minute seulement. Puis aujourd'hui, je lisais une nouvelle sur Cyberpresse disant que présentement, il y a près de 10 % des tuberculoses dans le monde qui sont multirésistantes à tous les médicaments. Alors, c'est ça aussi qu'on essaie de comprendre. La mondialisation, c'est pas seulement la mondialisation de la richesse, hein, c'est la mondialisation de la pauvreté et des maladies. J'ai assisté à une conférence au Barbade d'un médecin de la région qui a fait tout le lien entre le sida et l'esclavage et les conditions de vie probablement qui ont été des cofacteurs qui ont permis de répandre la maladie. Parce que c'est arrivé en Afrique au début des années 30. Le sida existe depuis probablement début des années 30. Un virus qui était chez des animaux, Saint-Germain, qui a été transmis à l'homme chasseur ou mangeur qui se blessait. Et ce n'est que le début des années 70 que l'épidémie va apparaître et 80 au Canada parce qu'il y a une incubation de 10 à 20 ans. Mais des gens étaient déjà morts, ça c'est prouvé là, biologiquement, des gens étaient déjà morts du sida dans les années 30, 40, 50 en Afrique, et il y a eu probablement des petites épidémies, mais on ne savait pas que c'était le sida. Et la tuberculose, toutes ces maladies-là sont des cofacteurs, la tuberculose est devenue la principale cause de mortalité des gens vivant avec le VIH-sida. La malaria, 300-500, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, 300-500 millions de cas de malaria chaque année, des moustiquaires, hein? C'est pas très compliqué, des moustiquaires. Puis, évidemment, comme toutes les maladies, ça tue principalement les femmes enceintes et les enfants. Pour en arriver à l'accès aux médicaments essentiels, une étude qui avait été démontrée dans la revue Le Lancet, il n'y a pas de TTE, ça va bien pour la science, a conclu que seulement 1 % des 1556 médicaments qui ont été développés dans les 25 dernières années ciblaient des maladies qui sont particulièrement dans les pays pauvres, alors que ce soit la tuberculose, que ce soit la malaria, que ce soit des maladies plus rares. Bien que que ces maladies soient plus de 10 % du fardeau total des maladies dans le monde. Parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt pour l'entreprise pharmaceutique, parce qu'il n'y a pas d'argent nécessairement à faire là. Ce qui revient aussi au phénomène de dire, ben c'est pas seulement le rôle de l'entreprise pharmaceutique, c'est aussi le rôle des gouvernements. La journée où le VIH, la trithérapie est arrivée, les gouvernements ont cessé, ont diminué, tous les gouvernements occidentaux ont diminué dans la recherche au SIDA, ce qui fait évidemment l'affaire de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est aussi, parce qu'on peut bien toujours blâmer les méchants de l'industrie pharmaceutique, mais c'est aussi le rôle des gouvernements de dire, ben il faut peut-être chercher, nous, est-ce qu'on peut travailler à la recherche d'un vaccin? On sait que l'Afrique n'aura jamais accès aux médicaments essentiels comme dans la lutte au sida, que c'est trop cher, etc. On a dit le sida tuait moins, heureusement, tuait presque plus, ou encore peu, au Québec, au Canada, mais évidemment, il tue dans le monde. Quelques chiffres que vous entendez à chaque année à la Journée mondiale du sida. 40 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida dans le monde, près de 5 millions de nouvelles infections chaque année, 3 millions de personnes décédées à cause du sida. Et d'ici 2010, c'est dans deux ans, il y aura environ 100 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida, principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi actuellement l'Asie, Moscou, l'Europe de l'Est, tous ces pays-là, principalement où la toxicomanie est une... est très important, un problème de santé publique important. Alors, évidemment, aussi, une citation de Bernard Grangeon, un des fondateurs de Médecins du Monde France, que le sida, au-delà des virus responsables, est devenu une maladie de société, le plus fidèle reflet des convulsions qui l'agitent, l'un des meilleurs témoins de nos inégalités. Cette constatation s'impose non seulement en matière de traitement, mais aussi dans des domaines aussi divers que l'économie, la politique, la culture. Les médicaments sont au nord, alors que les malades sont au sud. 90 % des nouvelles infections du VIH dans le monde sont dans les pays pauvres actuellement et environ 10 % des malades des pays pauvres ont accès aux médicaments. Si on regarde tout le drame du sida, c'est juste regarder ici l'espérance de vie. Alors, un pays comme le Swaziland où l'espérance de vie est passée de près de 60 ans en moins d'une décennie, de deux décennies, à 35 ans. Le Zimbabwe, toute l'Afrique du Sud. Alors, une des premières missions que j'ai faites au Malawi, c'était une mission qui était pour... on disait qu'il y avait une crise alimentaire, une famine. Et on a dit donc, bon, alors les organismes qui luttent contre la famine, tout ça était là, qui est des nutritionnistes, etc. Puis quand on est arrivé, Médecins du Monde, on allait dans un sens de travailler possiblement l'aspect nutritionnel. Et quand on est arrivé, on s'est aperçu que le sida avait un impact majeur, parce que qui mourait? Les fermiers mouraient. Les professeurs ils n'étaient plus dans les écoles pour enseigner aux enfants parce qu'ils mouraient du sida. 80 % des malades qui étaient à l'hôpital avait le sida, mais le gouvernement ne voulait pas nommer le mot sida. Vous savez, le sida, il est tabou partout. Hein? Il est tabou chez les homosexuels à Montréal, il est tabou chez les toxicomanes à Moscou, il est tabou en Haïti, il est tabou au Zimbabwe. Je voudrais que c'est la plus grande surprise de mon expérience, c'est de voir que dans des pays où 30 % des femmes enceintes sont séropositives, ou 30 % des gens qui ont fait du dépistage sont séropositifs, où tous les jours, les gens meurent du sida, les amis, les voisins, les professeurs, on ne nomme pas le mot sida. Alors, toute l'économie est touchée par le fait que ces gens-là, tous les jours, on parle des hôpitaux ici. Imaginez-vous si on n'avait pas de traitement. Déjà à l'époque, dans les années 90, quand nos malades mouraient du sida, on avait de la difficulté à avoir accès aux hôpitaux. Si aujourd'hui, on n'avait pas la trithérapie, ce qui fait que nos malades ne vont presque plus à l'hôpital ou beaucoup moins, ça serait un problème ici. Alors, imaginez-vous dans les pays pauvres. Imaginez-vous aussi comment faire de la prévention. Quand on est dans une école au secondaire 5 au Zimbabwe ou au Malawi, les jeunes Africains de 16 ans, ils ont le même désir que les jeunes ici. Ils ont la même libido sexuelle. Et en plus, ils n'ont pas d'espoir. Donc, 16 ans, s'ils se rendent à 30 ans, c'est beau. Alors, très difficile de faire de la prévention. Le niveau d'éducation est pas là. Le niveau des connaissances de la maladie sont très peu présents, ce qui fait que les enfants du SIDA ont été très oubliés dans toute la lutte au SIDA. Ce n'est que depuis quelques années qu'on parle un petit peu de problématiques spéciales au niveau des Nations Unies pour viser la prévention du SIDA. Or, le SIDA, c'est pas seulement chez les enfants une question de la maladie pour eux-mêmes, oui, mais c'est aussi la question surtout de tous les orphelins. On parle de maintenant qu'il y aurait environ bientôt 15 millions d'orphelins du SIDA. Quand on va en Afrique du Sud, on rencontre les orphelins de deuxième génération, des enfants d'enfants qui sont touchés par la maladie et qui sont élevés, évidemment, par les grands-parents, par les sœurs, les voisins, ou qui vont eux-mêmes finir dans la rue et, évidemment, devenir à risque pour toutes les raisons qu'on a parlé tout à l'heure, qui vont être des enfants de la rue, qui vont devenir eux-mêmes à risque, même s'ils n'ont pas contracté le VIH de leurs parents, de le contracter plus jeune. Ce sont des enfants au Zimbabwe, quand on est allé. On a un très beau projet, Médecins du Monde au Zimbabwe, difficile, très difficile, un des pays les moins respectés au niveau des droits de la personne. C'est très difficile, hein? On envoie des volontaires, des bénévoles qui veulent travailler, qui ont tout... Et en même temps, le pays veut pas nous avoir vraiment, donne de la difficulté à nos intervenants, impossible d'avoir des permis de travail. Donc, toutes ces conditions-là. Le Zimbabwe, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Il y a 1 million d'orphelins du SIDA. Alors, imaginez-vous, le Québec, on est 7 millions. C'est comme si on avait 700 000 orphelins du SIDA au Québec. Alors, de faire des programmes de prévention, ben c'est faire des programmes globaux, évidemment. Essayer de travailler au niveau de la prévention chez les femmes, l'accès à la trithérapie. Je vais parler particulièrement tantôt de l'accès à la trithérapie pour les femmes enceintes. Quelques statistiques encore. On dit toutes les 15 secondes, un jeune qui entre 15 et 24 ans contracte le VIH. 5000 nouvelles infections par jour. 40% chez les 15 à 24 ans, 50% hommes, 50% femmes. Évidemment, toute la question de l'inégalité des rapports hommes-femmes dans ces pays fait que les femmes beaucoup moins accès à l'école, à la connaissance, et subissent beaucoup plus de violences aussi. Tous les cas de SIDA qui sont répandus dans les guerres, dans les situations comme au Darfour, ce sont des nids d'épidémies du VIH-SIDA qui sont violentés par les militaires. Le projet Zimbabwe, alors juste pour vous expliquer, quand on fait un projet un petit peu, ben c'est un projet qui est très global. On va offrir du dépistage, du counseling, on va faire de la prévention mère-enfant. Pour le Zimbabwe, on visait spécifiquement les orphelins du SIDA, c'est-à-dire des soins à domicile pour que les orphelins puissent mourir dans la dignité. Un enfant qui est atteint par le VIH, 80% vont mourir à l'intérieur de 2 ans. C'est différent d'un adulte. Et idéalement, l'accès aux antirétroviraux pour ces enfants-là. Mais les projets qui sont probablement les plus faciles, les plus prometteurs d'avenir, c'est les projets au niveau de la prévention de la mère-enfant. Je vais vous en expliquer un qu'on a en Haïti. Médecins du Monde est présent très présent en Haïti depuis le début. On a commencé, je vous l'ai dit tantôt, pour nous, Médecins du Monde, chaque vie compte. On a commencé avec un projet très simple, avec l'hôpital Sainte-Justine, avec des missions chirurgicales, où nos médecins opéraient des jeunes qui n'avaient pas accès à des soins plus spécialisés, des enfants. Après ça, on a construit un dispensaire de santé dans la région de Grand-Gouave, soins de santé primaire. Puis une journée, on est arrivé, les cliniques de santé mobile de vaccination que je vous disais tantôt, les cibles de Médecins du Monde sont toujours principalement les femmes et les enfants, les personnes marginalisées. Et à un moment donné, on est rentré dans un hôpital à Cité-Soleil en Haïti en 2000 et on a vu des femmes qui faisaient des accouchements. Ça, c'est juste pour vous montrer... Quand on était à la Cité-Soleil en 2000, pour vous montrer la difficulté de faire de la prévention et comment peut-être aussi on se plaint un petit peu, le ventre plein aussi, de faire de la prévention auprès de ces gens-là. Et là, on a vu des femmes, des accoucheuses qui accouchaient sans gants. Ils n'avaient aucun gant. Donc, le risque pour elles-mêmes des accoucheuses de contracter le VIH. On pensait que la prévalence à l'époque du VIH dans cette région-là était à peu près 10 %. Puis on a eu une idée folle, on a eu une idée de faire un projet de prévention à Cité-Soleil en Haïti dans cette région-là. Personne n'y croyait, hein, parce que en plus, beaucoup de violence, beaucoup de comme je vous ai dit tantôt, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gangs, de bandits, donc toute la question de la sécurité, c'était très, très difficile. On est retourné récemment. Alors, l'objectif, si une femme est enceinte, 30 % à peu près de risque que son enfant soit infecté. Donc, c'est pas c'est un enfant sur trois. C'est pas les trois enfants, c'est ce qui va sauver l'Afrique. Si on traite la femme en fin de grossesse avec des traitements très simples, des médicaments d'atrithérapie, mais ça peut être deux comprimés de névirapine avec à la mère à l'accouchement et à l'enfant 12 heures plus tard, on va diminuer le risque de 50-60 %. Puis si la femme a accès à une vraie trithérapie dans le dernier mois de grossesse, on va réduire le risque de 100 %. C'est simple comme ça. Les médicaments sont souvent, à votre grande surprise, donnés par l'industrie pharmaceutique dans ces cas-là, parce que c'est pas des traitements à vie, c'est un peu moins coûteux aussi. Mais c'est toute la problématique quand on ouvre un centre quand on est arrivé à Soleil de dire on va faire un centre de dépistage du VIH. Je vous ai dit le sida il est tabou, hein, mais il est tabou là aussi. Alors comment on allait encourager nos femmes à se faire dépister pour le VIH? Ça a été très long, un travail de mobilisation communautaire, faire de la prévention primaire, lutter contre les préjugés. Mais il y avait une chose. Les femmes voulaient pas que leur enfant ait le VIH. Et c'est la seule raison pourquoi elles ont souvent mis leur vie en danger. Parce que si le mari apprend que la femme est VIH, la femme va être jetée en dehors de la communauté. La femme va souvent être violentée. Donc, le fait de passer un test, les hommes, la majorité des hommes ne voulaient pas passer de test. Donc, mais les femmes ont presque toutes accepté d'emblée, à notre grande surprise, de subir le test de dépistage et de prendre la trithérapie. Et récemment, il y avait un médecin qui est venu d'Haïti, qui est responsable du projet, et qui nous disait qu'ils ont fallu une fois, parce qu'il y a une femme d'un chef de gang de Cité Soleil qui s'est fait diagnostiquer VIH positif, et quand elle est revenue à la maison, son mari a dit « Non, t'es pas VIH positif », et il est allé à l'hôpital et il a menacé de faire sauter avec une bombe l'hôpital de Cité Soleil. Donc, il a fallu que les médecins rappellent la femme et lui disent « On a fait une erreur ». Parce que au danger que tout l'hôpital soit détruit, le groupe de médecins du monde, ils ont rappelé la femme, ils ont dit, on a fait une erreur, t'es pas séropositif. Alors évidemment, c'est un petit bandit qui avait 3, 4, 5, 10 femmes dans la vie. Alors ces projets-là sont supportés, ce sont le groupe des femmes VIH. Alors on va aussi travailler évidemment tout l'aspect de le support nutritionnel, des groupes de femmes. C'est beaucoup de travailler. Au niveau aussi, et c'est ce qui a été extraordinaire avec le projet Haïti, de travailler au niveau de créer un groupe de femmes, et Médecins du Monde a réussi ça à Cité Soleil, un groupe de femmes atteintes du sida qui se rencontrent, qui vont chercher la nourriture, qui sont moins isolées, que leurs enfants sont en santé. C'est extraordinaire. On est allé en novembre pour célébrer les 5 ans de Médecins du Monde et ce sont les enfants que je vous montre les photos, qui regardent cette fille, qui n'ont pas le VIH, qui sont nés de mère atteinte du sida. Et je vous dirais que ce seul projet-là est probablement le projet de ma vie avec l'actuel, parce que de toujours travailler, évidemment, dans la maladie, dans la noirceur, de toujours être désespéré, et d'avoir réussi à avoir 108 enfants avec toutes leurs mères atteintes du sida, qu'aucun d'entre eux n'est infecté par le VIH, c'était très, très émouvant. Elle est très malade, évidemment, on le voit. Alors, en réflexion, mon Dieu, j'espère que je ne déprimerai pas. Hein? La prochaine fois, il n'y aura personne. L'action humanitaire, c'est pas simple, c'est compliqué. Il n'y a rien qui me choque plus quand j'entends les gens parler du business de l'humanitaire, parce que je trouve que c'est méprisant envers tous ces volontaires-là qui mettent leur vie en danger. Moi, j'y vais, j'ai développé des projets, mais je reste pas là à l'année longue comme tous nos médecins, nos volontaires. Et quand j'entends ça, puis je l'entends assez régulièrement, c'est sûr que c'est des êtres humains. C'est sûr que c'est pas simple. Déjà, c'est pas simple s'entendre avec nous autres. Croyez-vous que c'est plus simple quand on est à Cité Soleil, qu'on est au Zimbabwe, qu'ils vivent dans la même maison ensemble, ne peuvent plus être capables de supporter? Alors, c'est sûr qu'il y a des fois ça va mal, puis il y a des mauvaises. Puis c'est sûr qu'il y a du mauvais monde là-dedans aussi, puis qu'il y a du bon monde. Mais je pense que la majorité des volontaires, 2500 volontaires médecins du monde dans le monde, dans plus de 60-80 pays, des gens qui sont là 1 an, 2 ans, 3 ans, qui 20 ans, qui donnent leur vie à ces organismes-là, je pense qu'on peut pas mépriser en parlant d'une business de l'humanitaire. Ça me choque beaucoup. En même temps, l'action humanitaire doit être réfléchie. L'autre chose, c'est quand il arrive une catastrophe, les élans du grand public. Hein, puis c'est ça qui est intéressant de faire une conférence puis de pouvoir avoir cette réflexion-là avec vous. C'est les élans du cœur. J'ai pas la photo, c'est trop de valeur. Quand on est allé à Cité Soleil, on est allé dans une... les gens vivent, la femme vivait avec son enfant. C'est grand comme un casier à peu près, là, qu'on... 8 pieds par 10 pieds, pas rien, là. Et là, elle avait une cafetière électrique. Alors, pour moi, elle a reçu ça de Montréal, quand les gens donnaient à peu près n'importe quoi. Alors, l'élan du cœur de dire, c'est pas suffisant. Souvent, ce qui est le plus important, c'est de donner de l'argent. Souvent, c'est de favoriser l'économie locale. On commence pas à donner des tondeuses puis des habits. Alors, mais il faut faire de l'éducation pour que les gens comprennent ça, de l'éducation citoyenne. Parce que on peut tout détruire l'économie locale aussi. Donc, il y a quand parfois Médecins du Monde ou Médecins sans frontières arrivent, Médecins du Monde ont la chance de pas être trop riche. Alors, on peut pas détruire, mais si on arrive là une organisation avec un gros budget là, puis qu'après on déstabilise tout l'hôpital, puis dans 1 an ou 2 ans on décide de s'en aller, là, on n'a pas fait grand bien à long terme. Alors, il faut vraiment travailler, puis c'est ce que j'aime de Médecins du Monde, c'est vraiment travailler avec l'équipe locale, sur le terrain. On sait pas combien de temps on va être subventionné, on sait pas combien de temps on sera là. Puis, donc, l'éducation, l'information, de renforcer nos médecins qui sont là, puis qui, eux, vont être là plus longtemps. Donc, il y a beaucoup de naïveté qu'on peut plus se permettre. Puis, il faut aussi penser que le tiers-monde, ben c'est pas la poubelle des pays riches non plus. Hein. On veut parfois faire du dumping ou... envoyer notre moins bon monde. Quand on choisit les gens, les bénévoles, les volontaires, on a une grande responsabilité de choisir les meilleurs, de choisir ceux... On va envoyer des gens qui vont travailler avec des enfants, avec des femmes, etc. C'est une grande responsabilité. C'est toujours un... Moi, j'ai été à la tête de Médecins du Monde Canada pendant 8-9 ans, 3 ans comme bureau, après ça, tout médecin. Le stress qu'on a tous les jours... Des volontaires qui parfois vont bien, parfois vont moins bien, de leur sécurité, de leur santé mentale. C'est un stress énorme pour des organisations. Alors, un autre... Vous voyez, j'aime beaucoup Bernard Kouchner. Il y en a qui ne l'aiment pas. Il est rendu ministre des Affaires étrangères. Mais quelqu'un qui a fondé Médecins du Monde et Médecins sans frontières, pour moi, ça mérite quand même un certain respect. L'humanitaire ne fonctionne pas seulement comme une ambulance et ses adeptes comme des brancardiers. Il s'agit d'un regard sur le monde, d'une méthode et d'une morale. On n'est pas des sauveurs, on n'est pas des missionnaires, on est des humanitaires. Faut s'assurer, comme je disais tantôt, que nos intentions ne produisent pas des effets plus négatifs à long terme. On doit avoir cette réflexion. On doit avoir une réflexion politique, connaître le contexte. D'où on va quand c'est très difficile pour les femmes médecins qui vont rencontrer, qui vont travailler parfois dans les pays musulmans par rapport à toute la question des relations hommes-femmes. Alors c'est des débats qu'on a régulièrement. Et révélateur que les grandes solidarités se fassent plus souvent en faveur des victimes de catastrophes naturelles. Hein? 7 000 nouvelles infections par jour au VIH. Arrive un accident quelque part, meurt 100 personnes, ça va faire la nouvelle, évidemment. Donc, c'est assez difficile. Arrive un tsunami, arrive quelque chose, 100, 200, 300 personnes, ça va faire... Mais tout ce qui est comme chronique, tout ce qui est comme... c'est comme si ces victimes étaient plus innocentes que les malades du sida, des victimes de guerre civile ou des réfugiés. Bon, ben pour être un peu optimiste quand même, dire ben que oui, ça va peut-être mal dans le monde, mais en même temps, il y a Evans qui dit « une construction portée par des normes et des valeurs, fabriquée donc par les êtres humains, Donc, les êtres humains peuvent peut-être la changer. Alors, c'est peut-être ça notre espoir, de dire qu'on ne peut pas, je veux surtout pas que vous sortiez d'ici déprimé. Moi, je suis pas déprimé du tout en pensant. Quand j'arrive de ces pays-là, je suis souvent en colère de voir ces grandes inégalités. Moi, je suis très favorisé dans la vie, très chanceux. Mais en même temps, si je reste en colère, j'avancerai pas. La colère nous fait pas avancer. Alors après ça, cette colère-là, ben, elle passe en levée de fonds auprès de mes amis qui répondent plus au téléphone parce qu'ils sont tannés de que je leur vende des billets. Mais elle doit passer dans des gestes d'essayer de changer. L'implication citoyenne, comme ce soir, l'éducation, hein, d'essayer de comprendre. C'est pas simple que ce qu'on vous avez. J'ai pas vu le bye-bye, mais il paraît que c'est assez drôle sur l'international à TVA, où Sophie Thibault fait 3 secondes de nouvelles internationales. Ouf! Alors, c'est à peu près ça. L'information qu'on a est très américanisée aussi, évidemment. Alors, on essaie de s'informer un peu partout. L'implication citoyenne, ça permet de dire au gouvernement ce qu'on veut. On a dit tantôt, avec tout ce qu'on vient de vous montrer, ça coûterait 12 à 15 milliards de dollars par année, traiter tous les malades du sida dans le monde, continuer de faire de la prévention, traiter toutes les femmes enceintes atteintes du VIH. 12 à 15 milliards de dollars, ça coûte ça par mois la guerre en Irak actuellement. Donc, faut. Maintenant, est-ce que le Canada est un bon citoyen? On va regarder parce qu'il se vante souvent. Part du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement. Le Canada est à peu près. Les Nations Unies recommandent que les gouvernements donnent 1%. OK? Alors, vous voyez, il y a le Danemark qui donne 1%, les Pays-Bas, la Suède. Norvège, Luxembourg, Belgique, Suisse, ça va. Le Canada est à peu près à 0,25%. Avait beaucoup baissé sous Paul Martin, d'ailleurs, qui aimait bien se faire poser avec Bonneau. Il a augmenté un peu récemment. On est passé, je pense qu'on est près du 0,3%. Les États-Unis sont à 0,1%. Alors, c'est aussi ça, l'éducation citoyenne, ben, c'est de dire quels sont nos choix de société. Ben, ça veut dire aussi aller voter. Ça veut aussi dire s'impliquer, ça veut aussi dire s'impliquer dans les mouvements sociaux, mais aussi politiques, l'implication. Comprendre que la pauvreté et la mondialisation, c'est relié, je vous ai parlé du sida tantôt. Le SRAS, c'est un autre exemple, le SRAS, le syndrome respiratoire. On est en train d'investir des millions de dollars pour la recherche d'un vaccin de SRAS qu'il n'y a pas en Amérique du Nord et dans les pays riches, alors qu'il est lié au problème actuellement de conditions de vie chez les Asiatiques, principalement. Alors, évidemment, ça concerne de façon disproportionnée les populations pauvres. Évidemment, toutes ces sommes-là qui font rêver les travailleurs humanitaires, on dit que pour chaque dollar investi dans l'aide au développement, on consacre 17 dollars investis aux dépenses militaires, et ça continue d'augmenter au Canada. Près d'un milliard de personnes luttent pour survivre avec moins de 1 dollar par jour. Qu'on a des pauvres au pays de la richesse, on l'a dit tantôt, que malgré les croissances économiques, on a vu la pauvreté aussi bondir. Il y a la pauvreté économique, il y a tous les cofacteurs qu'on a expliqués tantôt. Il y a aussi la pauvreté affective. Médecins du Monde est à Montréal auprès des jeunes de la rue, des jeunes qui parfois, tout simplement, n'ont pas de carte d'assurance maladie, ne veulent pas, les médecins les aiment pas, les toxicomanes, les systèmes de santé, ils sont pas nécessairement les très bienvenus. Alors, Médecins du Monde travaille aussi auprès local. Et en conclusion, si vous trouvez que j'ai fait une petite colère ou une petite dépression, ben, je vais terminer avec avec la citation de l'abbé Pierre qui dit que toute société se juge à ses colères. Alors, merci. Si je n'ai pas passé mon temps. Vous pouvez oser faire un commentaire ou poser une question. Sinon, je vais m'en aller souper. Oui? Micro?
Est-ce qu'il y a une différence idéologique entre la mission de Médecins du Monde puis Médecins sans frontières?
Pas tellement. Il y en a eu une, ça a été la raison de la séparation, c'est que Médecins sans frontières a été créé en 70 en France par Bernard Kouchner et un groupe d'autres. En 1980, il y a eu une séparation sur la question du témoignage. Alors, Médecins sans frontières avait de la difficulté avec toute la notion du témoignage. Et Médecins du Monde, Kouchner et compagnie, eux autres voulaient que ce soit un aspect important. Alors, c'est le thème. D'ailleurs, Médecins du Monde, c'est aider, soigner, témoigner. Ça a été une raison. Maintenant, les deux en font. Médecins sans frontières a beaucoup plus d'argent que Médecins du Monde. Ils ont reçu le prix Nobel de la paix, ce qui a beaucoup aidé, évidemment, aussi. Ces deux en France, Médecins du Monde est très connu pour son travail local auprès des réfugiés, des immigrants. Médecins du Monde est un peu moins connu dans les autres pays. C'est quand même récent ici. Au Canada, Médecins sans frontières, le bureau local est à Toronto, le bureau de Médecins du Monde au Canada est à Montréal. Donc, mais sur le terrain, c'est du travail assez semblable. À Paris, je te dis pas qu'il n'y a pas de discussion, puis de chicane, puis c'est clair qu'il y en a entre les deux organisations. Mais de façon générale, sur le terrain, ça se ressemble un peu. Médecins sans frontières a peut-être plus un peu d'urgence, plus de moyens. Coûte très, très cher faire de l'urgence. Partir avec des avions, ça coûte très cher. Alors, Médecins sans frontières a peut-être plus d'expérience dans l'urgence.
J'ai droit à une question extra. Qui n'a pas rapport. Le taux d'incidence dans la communauté gay à Montréal de séropositivité, je veux dire, c'est?
C'est environ 12 à 15 % okay. Des gays sont séropositifs. C'est 3 % en bas de 30 ans. Et à 30 ans, ça passe à 12-15 % Alors, s'il y avait un groupe qu'on veut cibler pour faire la prévention, c'est les gays en bas de 30 ans. Parce que déjà, tu multiplies par 5, 6 à 30 ans le nombre, la prévalence. C'est une incidence des pays africains. Hein? Si on parle du Zimbabwe, qu'on parle du Malawi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? C'est-à-dire qu'il y a deux VIH, VIH 1, VIH 2, surtout dans certains pays africains, puis dans certaines zones, dans certaines régions, un peu partout dans le monde, puis il y a différents sous-types. Alors, le VIH 2 est moins virulent. Souvent, les gens vont vivre 20-25 ans avant qu'il y ait des complications. Le VIH 1, qui touche principalement le monde quand même, c'est la majorité des gens vont être malades à l'intérieur de 5 à 10 ans. Vont commencer à avoir des complications. Alors, c'est une longue période d'incubation, ce qui fait que ça a été long avant de découvrir aussi la cause, ce qui rend aussi la difficulté de la prévention, parce que les gens sont longtemps, dans le fond, malades, infectieux ou sans avoir, la plupart du temps. Alors, il y a deux types. Le principal type, l'épidémie principale, c'est le VIH1. Oui, bien, il se promène un peu parce qu'il faut dire que même en France actuellement, même en Europe, comme il y a une population très migrante d'Africains, il y a de plus en plus de VIH2. On a même découvert récemment chez certains homosexuels en France du VIH2, alors que c'était le cas qui n'avait jamais été vu avant. Le monde voyage. Oui? Petite voix de fille.
Oui, désolée. Oui, en fait, j'aurais trois questions. Une un petit peu technique sur le paludisme. En fait, il y a quelques années de ça, on a fait grand bruit au sujet d'un scientifique qui s'appelait Manuel Patarroyo, qui avait mis au point un vaccin dont il refusait de vendre le brevet. Merci. Pour des raisons idéologiques, il refusait que ce brevet soit vendu à des laboratoires qui ne rendraient pas ce vaccin-là accessible aux populations qui en avaient le plus besoin. Donc, à l'heure actuelle, qu'en est-il?
Je ne suis pas du tout un expert en paludisme. Je suis pas très paranoïaque et je me méfie beaucoup des gens qui ont la réponse à tout. d'incidents, on en a vu beaucoup. Il y a un prix Nobel qui se promène à Montréal, avec qui a écrit un livre qui s'appelle « Les dix mensonges du sida », disant que le sida n'est pas causé par un virus, que le sida en Afrique est différent du sida. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences. Et j'ai des patients qui arrêtent leur traitement à cause de ça et qui j'en ai qui sont morts récemment à cause de ça. Alors, faut être prudent avec... C'est ça la difficulté aussi de la science. Hein. Ce soir, c'est la science, science pour tous. Il y a des gens qui ont des connaissances scientifiques et qui l'utilisent aussi négativement. Alors.
OK, merci. C'est quand même intéressant à savoir. Puis les deux autres questions, elles traitent du VIH en soi. Puis je dois ajouter d'ailleurs que je suis très contente d'être ici ce soir. J'ai été moi-même bénévole en Martinique parce que c'est le pays dont je suis originaire pendant 10 ans. Et c'est vrai que la stigmatisation, la discrimination, on l'a vécue au jour le jour avec des gens qui refusaient effectivement de se faire dépister simplement parce que dans la famille même, il y avait un rejet total et qui rendait très, très difficile les prises en charge. Donc, ça me fait du bien de me retrouver là. Je me retrouve un peu dans mon élément. Et voilà, c'est ça. Ben, toujours dans ce domaine-là, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a quelques années, je suis un petit peu larguée malheureusement, hein, l'ONU-SIDA parlait justement d'un rapport entre la prévalence VIH, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, et la stabilité de ces pays-là au niveau politique. À l'heure actuelle, d'après vos missions, tout ce que vous avez pu faire sur le terrain, et puis le Zimbabwe semble être un bon exemple, c'est quoi votre regard là-dessus? Est-ce qu'il y a véritablement de quoi s'inquiéter?
C'est clair que toutes les guerres où il y a des prévalences du VIH extrêmement importantes sont avec les violations des droits civils et les femmes qui sont violentées. Ces femmes-là sont très, très touchées, affectées par le sida. Puis après, il n'y a pas de ressources en plus pour elles. Quant à des pays où il y a de la discrimination, où il n'y a pas de droits humains, bien, c'est à peu près impossible de faire de la prévention. Okay. Comment faire de la prévention quand les relations hommes-femmes ne sont pas égales, les femmes n'ont pas accès à la connaissance, les homosexuels n'ont pas le droit de vivre? Le président iranien disait qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Iran. Moi, je suis allé en Iran, je peux vous dire que j'en ai vu. Alors ça dépend quels yeux on a, peut-être. Alors, c'est très difficile. Pour faire de la prévention, il faut qu'il y ait un contexte d'ouverture. Plus il y a de la stigmatisation, plus il y a des préjugés, on fait juste encourager des épidémies. Ça, c'est clair.
OK, merci. Et ma dernière question, c'est... J'ai entendu parler, en fait, de toute façon, je pense que vous l'avez dit, on a peu de moyens au niveau financier.
On a les moyens.
Oui, mais en tout cas, les prendre, c'est pas nécessairement
on a les moyens. On a les moyens, la planète a les moyens.
Oui, la planète, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous à 200%. Ouais, bon.
On fait pas le choix de le faire.
C'est ça, c'est sûr. Ce qui m'interroge depuis quelques mois, c'est la capacité des populations elles-mêmes à participer justement à leur propre prise en charge et à l'utilisation des ressources qu'elles peuvent avoir sur le terrain. Puis j'ai une expérience en tête qui se produit au Burkina Faso à l'heure actuelle. Elle porte sur la spiruline, qui serait une algue qui serait un excellent complément nutritionnel non seulement pour les enfants, mais peut-être pour les personnes qui n'ont pas accès justement aux antirétroviraux, mais dont la prise de cette algue-là, donc à moindre coût, parce qu'elle se produit sur place et dans des conditions très, très, très faciles de production, pourrait aider à améliorer la réponse aux antibiotiques lorsque ces personnes-là souffrent d'infections opportunistes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait à l'heure actuelle à plus grande échelle?
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font sur toute la question des produits ou des aliments naturels, mais veux pas, on est dans un pays riche, puis avant la trithérapie, nos malades mouraient du sida. Alors, s'il n'y avait pas la trithérapie, nos malades mouraient du sida. En plus, ces gens-là, la première chose qu'on aurait avant de... Parce que souvent, les gens vont être très... bon, ils vont aller voir le vaudou, ils vont aller voir ci, ils vont payer, hein, en plus, pour des ressources pour se faire guérir. Dans le fond, que probablement que la meilleure chose, ce serait tout simplement une bonne nutrition, qui serait la première chose qui pourrait aider le plus. Alors, mais eux aussi, quand tu es dans la grande misère, la noirceur, il y a encore toujours des gens prêts pour revenir encore plus...
appuyer. Mais c'est comme le cas des jeunes vierges en Afrique du Sud à un moment donné.
C'est une autre affaire.
Okay. Merci beaucoup.
Merci. Bon, ben, on termine. Merci. J'ai pris mes...